bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier.
Donc tu es chanteur du groupe Mnemic.
Oui, je crois, je me souviens plus trop bien, ça doit être ça, ouais.
Entre autres, devrais-je dire d'ailleurs. Au niveau de votre musique, c'est toujours extrêmement difficile de classer Mnemic, puisque vous avez un horizon musical qui s'élargit encore, si on peut dire, avec Sons of the System. Comment est-ce que, de ton point de vue, tu as ressenti l'évolution du groupe depuis le dernier album Passenger qui est sorti en 2007?
L'évolution, je sais pas trop, vu que moi je suis dedans, donc nous on compose plus ou moins de façon spontanée, quoi. On ne réfléchit pas trop à dans quelle direction on va aller. Donc j'ai pas vraiment de recul, l'album a été composé de façon plus spontanée, je veux dire, parce que Passenger, bon, moi j'étais pas là, j'ai composé qu'un morceau dessus. Enfin, j'ai fait mes paroles, mais un morceau aussi. Et beaucoup de stress de la part du management et puis du label, parce que bon, fallait sortir un truc. Et puis, donc ça a été un petit peu forcé, on va dire, au niveau de la composition. Pas complètement, mais bon, un petit peu, donc ça a un peu de pression quand même, quoi. Alors que celui-là était totalement, totalement décontracté, et puis voilà. Mais au niveau de l'évolution du style, je vois pas trop, en fait, qu'est-ce qui est vraiment de différent. Enfin, on s'en rend pas trop compte, en fait. On nous dit souvent ça, depuis qu'on fait l'interview un peu pour la promo, mais on va pas expliquer quelle direction on a pris comparé à Passenger ou le truc d'avant. On sait pas trop, on a pas assez de recul, quoi.
Justement, au niveau de la composition, comment vous faites? Parce que vous n'êtes pas super proches les uns des autres, géographiquement parlant.
Non, c'est presque près, ça. Ouais. Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est que, ce qu'on a fait pour cet album, on a composé chacun de notre côté. Donc, on fait, moi, je travaille avec Pro Tools depuis longtemps, vu que j'ai un studio. Donc, comme moi, je bossais déjà avec ça, en fait, on a acheté avec le groupe un petit Pro Tools pour tout le monde, pour les autres. Donc, on a composé chacun de notre côté, en fait, sur la même plateforme. Et donc, dès qu'on avait un morceau, on les fait tourner, et donc ceux qui étaient retenus, les morceaux qui étaient retenus, après on les peaufinait soit on répète, donc on répète, de toute façon, je vais pas trop répéter, les autres non plus d'ailleurs. Enfin après, les morceaux qui étaient retenus, on les peaufinait tous ensemble en fait, studio ou alors, enfin dans notre studio, ou alors, on répète, on ouvre la structure, et puis voilà, quoi. Après, donc on a eu 15 chansons, je crois, en tout, et donc on a fait un choix de... Non, on a eu beaucoup plus que ça, on a dû avoir une trentaine de débauches. On en a gardé 15, on a enregistré 15, et là on a 11 sur l'album et 4 qui sont en bonus track.
Toi, en tant que, on peut dire, multi-instrumentiste, comment tu interviens sur la création des morceaux? Est-ce que tu touches un petit peu à tout, ou est-ce que tu laisses certaines parties qui sont un peu chasse-gardées par rapport aux autres membres du groupe?
Disons que la plupart des morceaux, en fait, je compose dessus comme un chanteur normal qui fait que chanter, un bon chanteur qui est type pour rien, qui est déboulé, qui pose sa voix et faire chier le monde. Donc moi, en fait, il y a peut-être les deux tiers des morceaux où ça s'est passé comme ça, où je suis arrivé simplement donner mon avis, en fait, sur les morceaux, comment c'est normalement qu'on est chanteur. Voilà, je vois plus la structure-là un peu différente, c'est un peu plus long, c'est un peu plus ceci, un peu plus cela. Et pour le reste des morceaux, en fait, moi, je les compose de mon côté, donc c'est des morceaux que j'ai... en partie composée, la majeure partie du morceau. Donc là, je vais essayer vraiment totalement du début à la fin. Je regarde tout, les batteries, j'enregistre aussi les guitares, un peu tout le truc. Et pour... là, j'ai fait tout seul, puis tout ce que j'ai fait avec un dégât de musique à chaque fois. Et puis voilà, comme ça, c'est pour 3-4 morceaux par rapport, on va dire. Quoi. Donc voilà, d'un côté, le truc normal où je pose mes voix, où je critique un peu les structures, les trucs changés. Et puis l'autre côté, où je suis complètement impliqué en tant qu'on peut se faire principal sur d'autres morceaux, où là, vraiment de. De A à Z, je participe vraiment à tout, quoi.
J'ai lu que au niveau de la composition des morceaux, c'était des émotions qui vous tenaient particulièrement à cœur, qui ont été utilisées pour la création, et que votre inspiration allait de l'art steampunk jusqu'aux différentes sortes de science-fiction, et surtout que votre musique pourrait être utilisée comme la bande originale d'une dystopie futuriste. Tu peux nous en dire un petit peu plus de tout ça, parce que c'est assez énigmatique, on peut dire, comme définition, et assez large.
Ouais, bon, après, les trucs de, quand c'est marqué sur les trucs de promo, ils mettent en des articles un petit peu. En fait, quand c'était Mnemic avant d'en passer, en plus, c'était un peu penché sur tout ce qui était un petit peu futuristique, tout ça, les trucs conceptuels, un peu comme Scarf, on peut le faire aussi, d'ailleurs, comme dans les textes de Scarf, moi, j'écrivais quasiment rien, parce que je veux dire qu'il s'amusait avec ses conneries futuristiques, donc moi, j'ai rien à foutre. Donc je chantais, et voilà quoi. Et donc là, donc Mnemic, par contre, ça change un petit peu. Il y a toujours un petit peu cette ambiance, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de samples, et puis c'est des gars qui sont bien branchés sur la technologie, des trucs comme ça. Donc là, cet album-là, en fait, l'influence a surtout été, beaucoup été Muse, a priori, qui était une des influences principales pour cet album, enfin, en tout cas au niveau des autres, pour la composition. marrant, Muse, on peut pas s'attendre à ça, mais ouais. C'est un Muse, un Nine Inch Nails, des trucs comme ça, voilà, des trucs un petit peu Indus aussi, un peu chelou, et puis au niveau du thème des chansons, en fait, c'est plus ou moins la vie comme on la voit, enfin, moi j'écris les paroles, et Mirsa aussi écrit les paroles, donc moi j'écris un peu le monde de ma fenêtre, comme je le vois, avec mes mots un petit peu chelous, enfin, donc j'écris de façon assez subjective, je peux pas tout de suite te dire, ah ben il parle de ça, moi c'est vraiment subjectif, mes trucs bonbons, tu peux interpréter de plein de façons différentes. Et Mircea, en fait, lui, il écrit le monde comme il le voit de sa fenêtre, mais dans le futur, en fait. C'est toujours une notion un petit peu de trucs un peu futuristiques, mais ça peut être une volonté vraiment importante de se tenir à ce truc-là, ce concept futuristique.
Pour creuser un petit peu plus au niveau de l'album, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots à propos de la chanson Sons of the System?
Ben, en fait, la chanson-là, c'est plus ou moins, ça parle plus de révolte. En fait, c'est un thème assez large, un truc assez grandiloquent, on va dire, voilà. Et ça correspondait bien aussi de l'album, parce qu'on avait choisi, en fait, on avait trouvé le nom de l'album il y a déjà assez, je pense, quasiment un an. Donc, il y a cette chanson quand même avec ça. Et voilà, ça part pour un peu du sentiment de révolte, enfin, tout le travail. Voilà, quoi. Les paroles, tu sais, moi, j'écris les paroles, mais en fait, même quand je chante les paroles sur scène, je ne sais pas trop ce que je chante, en fait. Je chante, mais je fais pas attention. En fait, les paroles dans la musique, ça m'attache pas mal, en fait.
C'est plus une ligne de chant avec une
sonorité. Ouais, voilà. C'est plus une musicalité que ce que ça veut dire, en fait. Moi, plus j'étais gamin, en fait, j'aimais pas trop, en fait, les chansons. Tout ce qui était pop français, bon, c'était des trucs comme Transial, Michel Berger, des trucs comme ça. Aucun truc récent, je trouve tout à chier, ça m'a fait les oreilles. Et donc les paroles, même si en français, tu vois, je chante à tout, mais je ne fais pas attention à ce que je chante. En fait, le son, vraiment, on m'échappe totalement. Moi, c'est vraiment, faut que ça sonne joli à l'oreille. Je peux te parler un peu du thème général, du départ, mais moi, en fait, si je veux, par exemple, vous me demandez de parler sur un morceau que j'ai écrit, par exemple, Erin, tu vois,
ouais.
Il faut que je relise les paroles pour me souvenir de quoi je parlais, de quoi j'ai voulu parler. Sinon, comme ça, dans ce concept, pour même pas te dire que je sais pas. Alors que je suis une chanson par terre, il faudrait que je me retape les paroles, en fait, pour que c'est bien de quoi ça parlait.
Où est-ce que vous avez enregistré cet album-là? Vous l'avez enregistré dans ton studio
ou... Non, ça vous aime bien, tu sais. On a fait des batteries chez Toumatel. Mm-hmm. C'est un ami de longue date de Monique. C'est un peu comme le sixième membre du groupe, on va dire. Il participe beaucoup aux arrangements finaux avec nous, le temps et tout ça. Et bien sûr, il fait toujours nos morceaux en avance pour savoir ce qu'il en pense et tout ça. Donc on a fait des batteries chez lui au Renfarm Studio à Russe. Ensuite, moi j'ai ramené une partie de mon studio parce que j'ai ramené, en fait, on a plus ou moins établi un studio, le Mimic et Carter Studio, dans le local, en fait, de Rattel. Enfin, c'était un local qui s'était séparé, qui est en espace, donc on a installé ça. C'est un bordel là-dedans. Il est pile partout. Et donc, j'ai ramené une partie de mon studio, tout nous a laissé qu'un peu de matos, c'est plus le matos de Mimic, donc on a traqué nous-mêmes les guitares, les basses et puis les voix, et une partie des samples. Et après, on s'est recassé donc à Alborz, donc à la ville où se trouve Mimic, dans le nord du Danemark. Et après, on est retourné à Aris, chez tout, maintenant, encore une fois, pour finaliser les quelques samples, puis profiter au mix de mastering.
Vous vous êtes fait plaisir au niveau technologie sur l'enregistrement? Est-ce que vous avez doublé des voix, utilisé 15 pistes de guitare? Ou est-ce que vous êtes resté un petit peu sobre pour penser après à l'adaptation en live, que les gens ne soient pas trop déçus?
De toute façon, Monique, en fait, sur scène, on marche toujours au clic, parce qu'on a pas mal de samples. Donc on se restera pas en ce niveau-là. C'est beaucoup tout, en fait, qui va mettre la touche à la fin, ou même partie de on regarde la moitié des samples quand on compose, quand on enregistre. Et donc on est avec tout, avec lui, en fait, on rajoute encore la moitié des samples en plus. Donc au niveau des samples, là tout est pareil, vu que sur scène, de façon, je joue au clic. Et c'est vrai qu'au niveau des voix, dans Passenger, j'ai pas mal fait quand même de couches de voix, tout ça parfois. Donc même si on procède, par exemple, si je dois chanter un truc et s'il y a un cœur derrière, le cœur va être samplé. Donc moi, je chante la note en-dessus, au-dessous, et puis voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, donc sur celui-là, moi, j'ai essayé de rester beaucoup plus, comment dire, sobre au niveau des voix claires, pour vraiment construire sur la mélodie principale, et éviter de mettre des chœurs superflus. Il y en a, bien sûr, mais c'est vraiment qu'ils soient vraiment utiles et mis de façon intelligente, et pas forcément, parfois, tu surenchéris un petit peu, parce que tu trouves ça joli sur le coup, c'est sympa, mais à cœur cru, tu dis, ouais, enfin bon, voilà, quoi. Donc de toute façon, mais quand on enregistre un album, il y a toujours pas mal de pistes de guitare ou de trucs de voix. Ça, c'est vraiment, ça s'entend pas vraiment quand tu écoutes l'album, mais bon, sur certains albums, tu peux avoir son là pour Passenger, pour sur le système, comme je double mes voix, enfin, les voix claires, tu t'es doublé, les voix braillées, vont t'as une voix au milieu, et puis parfois je les double un petit peu. Et puis après, tu rajoutes un petit peu de voix des en dessous, des conneries qu'on mettre un peu de relief et tout le bordel. Mais bon, il y a des albums que j'ai enregistrés dans le passé avec d'autres groupes où je peux travailler parfois avec 12 voire 20 pistes de voix. Enfin, bon, il n'y a pas tout en même temps, bien sûr, mais bon, même jusqu'à 24 et tout, et comme ça. Ouais. Donc là, j'essaie de rester soft quand même, quoi. Je suis content. Et moi, c'est chier et tout, parce que c'est vrai que quand t'as plein de pistes après, pour tout mixer, c'est pas évident. Mais bon, c'est son boulot, merde.
Un souvenir particulier de la session d'enregistrement?
Ouais, là, t'as un temps de chiottes, ça veut dire marque. Ouais, bah, à la fin, t'es un peu fatigué quand même, donc c'est sûr que. Donc c'est vrai que c'est pas chez moi, là, tout le monde était chez soi, donc au Danemark, mais sauf moi. J'étais loin de chez moi, donc c'est vrai qu'à la fin, pour choper l'énergie qui restait dans les derniers jours pour finir les voix, j'avoue, j'ai dû ouvrir des bières pour choper l'énergie. Enfin, ça, c'est pas nouveau, mais bon, je vais pas boire pour pouvoir chanter, mais. À la fin, ça fait vraiment claquer et tout. En fait, je comprends un petit peu, tu sais, le suicide là-haut dans les pays du Nord, parce que bon, l'hiver, tu pars au boulot, il fait nuit, ça va du boulot, il fait nuit, et ils ont quoi, ils ont très peu d'hiver. En plus, quand il fait un temps de chiottes, c'est vrai que les mecs, souvent, parce qu'ils se bourrent la gueule super souvent, qu'il y a des problèmes d'alcoolisme là-haut, parce que, putain, ils ont intérêt à s'accrocher, parce que le niveau moral, c'est vraiment pas évident parfois, le manque de lumière. Au Danemark, ça va encore, que c'est pas pire qu'en Islande, j'étais une fois avec Scarl, c'était. En été, bah, on te dit, tout le temps il fait jour, imagine l'hiver quand il fait tout le temps nuit, mais tu dois te noyer dans le whisky, je sais pas quoi. Mais tu dis, ouais, c'est sympa, enfin, tout enregistrement d'album, c'est des hauts et des bas, donc bon, tu te marres, au moment, parce que bon, c'est comme se mettre à poil et vraiment beaucoup d'efforts mental pour essayer de te concentrer, pour donner le meilleur, donc des fois, tout va aller sur des roulettes, tu vas faire la prise nickel, one shot, et puis des fois, tu vas la reprendre 50 fois parce que tu n'arrives pas à la voir, t'es pas de temps, et puis voilà quoi. Bon, ça, c'est l'histoire de la musique après, c'est normal. Personne n'est un surhomme, enfin, j'espère, sinon merde.
Quelle est la chanson que tu préfères interpréter sur l'album Sons of the System?
Pas pour l'instant, on a interprété qu'une seule, sur scène. On a fait Heroine parce que bon, c'est un morceau qui est en ternaire, qui est en suite, donc les mix, c'est pas des masses de morceaux comme ça, c'est beaucoup de 4x4 en fait. Dans le Nord, ce qu'ils font, donc comme sur Passenger, par exemple, j'avais composé une chanson qui s'appelle In Control, qui est pareil, en terre d'air, une vaste médaille, si tu veux, voilà, pour plus faire comprendre, donc voilà, donc je fais pareil dans ce morceau-là, un morceau qui dénote pas mal les autres, je trouve, et qui est bien, je fais un refrain qui est un petit peu plus, qui est une touche mélancolique, ce que je fais pas trop souvent, mais voire jamais, donc c'est un morceau qui est un petit peu une nouveauté pour moi, ce style de mélodie sur le refrain. Donc ce morceau-là, donc on aime bien jouer là, parce qu'il y a pas mal de relief, et puis aussi je pense qu'il y aura des Eleutherus qu'on va faire aussi, que j'ai hâte de faire aussi, parce que moi, je pense qu'on va bien faire ce scénario là-dessus, quoi. Donc il y a un paquet que c'est pas encore comment ça se passe, parce que parfois t'as des morceaux que t'as envie de jouer, et quand tu les joues sur scène, toi tu es éclaté à les faire, ou pas, parce que là tu les joues plus, et parfois tu prends le pied pour faire un morceau, on fait un morceau, et les gens, ils sont pas trop réceptifs. Donc il faut aussi changer, parce que quand tu fais sur scène, c'est aussi pour que les gens puissent rentrer dedans et puis se marrer, quoi. Donc je te dirai ça d'ici quelques mois, quand on aura joué plusieurs morceaux sur scène.
Est-ce que vous allez tourner un clip prochainement ou pas? C'est pas
prévu. Ouais, on va tourner un clip, c'est alors soit ce mois-ci, soit au mois de janvier.
Vous avez déjà le titre?
En fait, on va passer avec. Pardon?
Vous avez déjà le titre?
Ouais, c'est pour Diesel Uterus, le single. Quel nom? Non, parce que c'est pour moi qui ai écrit ce morceau, Diesel Uterus, là. En anglais, ça fait Diesel Uterus. Ça fait un petit peu mieux, mais alors bon, en anglais, Diesel Uterus, ça fait un petit peu en français, un peu chelou. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai vu le titre qui m'a refusé, c'est un morceau de Mercer, dans les paroles, quand j'ai enregistré les voix, il est malade, je vais pas appeler ce morceau comme ça, donc je changeais le nom. Et puis en fait, ça s'est bien inclus dans les paroles, en fait. Enfin, je prononce ça un petit peu dans les paroles, ça s'inclut bien, et en fait, c'est pas choquant, ça passe bien. Et puis en fait, je sais pas, ça allait bien avec l'atmosphère, donc et puis ça. Ça représente bien le sens de la chanson, donc j'ai laissé ça comme ça. Et puis c'est moi qu'il y a plein de gens qui me demandent, mais c'est quoi cette chanson? Il y a de l'utérus, donc ça fait parler en plus, donc ça rigole, quoi. C'est vrai qu'en français, c'est un peu louche quand même, quoi. Utérus diesel, ça veut dire quoi?
Qui va réaliser donc, le clip?
Alors c'est, comment il s'appelle, le gars? C'est un Danois, en fait, parce que cette fois, on va pas bosser avec Patrick Ulaus. On a bossé quand même pas mal de fois avec lui, et puis là, on veut un petit peu, enfin en tout cas les gars. Ils ont fait 5 clips avec lui, donc là ils veulent un truc un petit peu différent. On est parti sur une vidéo plus ou moins, enfin un truc un petit peu, pas une vidéo performance, pas un truc qu'on va être bangé dans tous les sens et faire des cons, etc. Comme la plupart des clips, on essaie de faire un truc un peu plus artistique, on va dire, pas entre le tout, la niche nice et des trucs comme ça. Hein. Donc, ce genre de clip, c'est soit ça rend bien, soit ça rend mal, quoi. Donc, c'est double tranchant, on verra bien. Je pense qu'il sera disponible pas longtemps après la sortie de l'album. Il s'appelle Je sais pas, mais en tout cas sa compagnie, ça s'appelle Plastic Kid. Son nom, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai pas encore rencontré, moi. C'est un gars qui connaît le bassiste de Nemi. Et donc, il nous a présenté un truc là, sur Internet. C'est vraiment, vraiment super sympa. Juste qu'il a joué et tout. On est curieux de ce que ça va donner. Mais par la suite, on fera notre vidéo aussi. Donc, je pense vers avril. Pour lancer un petit peu la promo, ça c'est une seconde vague. Le but, c'est de faire un clip avec les frères Becca aussi, avec qui j'ai fait tous mes clips de Wave and Mirror. Il a aussi fait les clips de la Creed, une très palienne, il me semble. Il a fait des belles formes. J'ai référence, tu vois, pour des Français à l'étranger, en général, les mecs sont pas très bien vus. Et bah oui, en France, on a une bande d'étrangers, c'est vraiment des mecs qui assurent avant en vidéo. Comme on dit, qu'on a vu les vidéos qu'on faisait avec Wave and Mirror, ils ont fait « Oh, on va en faire une aussi ». Donc c'est très bien. On se refera un autre clip pendant l'année avec les Chacal, Becca, le Potier.
Au niveau de votre tournée, vous avez déjà des dates qui s'annoncent donc en février pour le Danemark. Est-ce que vous avez des projets pour la France ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt pour en parler?
Comment dire, on est en train de faire le shopping, comment dire, pour les managers, management et puis le booking. Donc on a un petit peu tout changé d'équipe. Donc là, on a trouvé le management et puis le booking se décide aujourd'hui justement. Donc là, voilà, donc c'est bien, donc on va commencer à bosser là-dessus. On a déjà prévu, donc on a le Danemark, on a une tournée Amérique du Sud qui va se... Bon, c'est sûr, à 95%, et bon, après, c'est juste histoire de vérifier tous les contrats, parce que dans ces pays-là, t'as bien foutu fous les pieds. Donc pour que tout soit sécurisé, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, dans les contrats. Donc ça, c'est bien parti. La Russie aussi, on a l'Espagne, on a... Alors après, on a joué en Sardaigne, donc après la Sardaigne, après les Açores, on va aller jouer aux Canaries. Je te jure, et donc c'est rigolo quand tu dis... Mes potes ils sont dégoûtés parce que moi je voyage sur l'Europe et puis des destinations chaudes, en plus j'avais rien à foutre, que je préfère les villes modernes du Nord, bon, enfin du Nord en tout cas, je préfère New York, Los Angeles, tous les trucs un petit peu exotiques du Sud, moi c'est une destination que j'aime pas trop parce que j'aime pas trop quand il fait trop chaud, donc là, Sardaigne, Estomé, les Açores, et là les Canaries. C'est pas mental, hein, en fait, je vais prendre de belles photos et puis voilà, c'est super rigolo quoi. On aime bien faire genre des destinations un petit peu exotiques avec Némi, qu'on... Par exemple, quand tu fais en fait une tournée tête d'affiche, et bah bon bah là le cachet est pour toi, donc là tu gagnes de l'argent. Ça c'est au niveau rentable, voilà. Quand tu joues pour un groupe comme je sais pas Machine Head ou des trucs comme ça, là bon c'est pas super rentable, c'est vraiment de la promo pure, quoi. C'est-à-dire que bon tu joues dans du monde pour après revenir en tête d'affiche. Et il y a ces concerts qu'on fait donc là comme aux Açores ou tout ça, voilà, où là bon, on fait un petit peu des concessions au niveau cachet, parce que ça nous permet quand même de voir le monde et des endroits qu'on n'aurait jamais vu, enfin peut-être jamais vu si on n'était pas musicien dans Munich. Donc c'est vraiment un truc là qu'on fait vraiment pour nous se marrer, une expérience de vie. Et s'il y a du monde tant mieux, s'il n'y a pas de monde tant pis. Enfin, en général il y a toujours du monde parce que c'est dans ces contrées lointaines, ils vont jamais de concert métal. Donc tu te retrouves souvent devant une horde d'espèces de métalliers qui n'ont pas vu un concert métal depuis je sais pas combien de temps. Donc les mecs sont complètement cinglés, ils grimpent au réseau et tout, donc en général ça passe super bien. Mais on aime bien ce côté un petit peu touriste, un petit peu avec les groupes où là on fait des concessions au niveau du cachet, mais vraiment c'est. On aime bien découvrir des cultures différentes, rencontrer des gens, tout ça, c'est vraiment sympa là-dedans. Ça. La France est bien sûr en ligne, là on est en train de voir, on est en train d'essayer de monter une tournée soit européenne, soit française, un petit peu européenne. En tout cas, on va essayer de se concentrer sur le marché français, mais d'être beaucoup plus présent que par le passé, parce que pour l'instant, depuis que je suis dans le groupe, on a joué, je crois, 3 dates seulement en France. Donc là, on va vraiment essayer d'être beaucoup plus présent en France, parce que déjà parce que je suis français, et puis ça serait pas vrai. Puis la France, c'est joli, parce qu'après avoir fait un peu le tour du monde, je te dirais, la France, parfois, comme tout le monde. Et puis quand tu vas voir à côté, tu te dis, ah ben la France, en fait, c'est vachement bien à tous les niveaux. Quoi. Donc on va quand même essayer, j'essaie de leur faire découvrir un petit peu le pays, leur faire manger un peu de saucisse là, du roquefort, du tralalat, hein. Ils aiment bien ça, ils aiment bien la bouffe aussi. Pour des Danois, ils bouffent que de la merde là-haut, mais bon. Enfin, de la merde pour nous, Français, en tout cas. Donc, ça va être sympa, on va vraiment essayer de jouer beaucoup plus souvent. C'est au moins, en tout cas, au moins, ils aiment de battre pour cette date dans le corps. Largement, au moins, quoi.
D'accord.
Et les US, etc. Voilà, quoi. Enfin, le truc normal, après, quoi. Enfin, le truc normal, comme on a fait pour le Danemark.
Un dernier mot pour conclure.
J'espère que les gens qui écouteront mon album, et puis qui viendront nous voir un concert, et puis j'espère qu'ils aimeront bien le concert. Et puis qu'ils allons nous voir, et qu'on boira des bières ensemble, et qu'on se marra, et voilà quoi. Et le serpent qui se mord la queue.
Un petit mot sur la pochette, qui a une symbolique peut-être assez particulière.
Non, pas trop en fait, elle n'a pas vraiment de rapport avec le thème de l'album, quoi. C'est un ami danois qui a fait l'espèce de... C'est pas un partage en fait, quoi, c'est des points qui s'attrapent, donc c'est pas un partage, parce que bon, partage c'est assez cliché. Mais c'est plus un délire un petit peu, comment dire, artistique, on va dire, que l'intérieur, donc la pochette à l'intérieur, c'est des dessins que Rune, un des guitaristes de Nemi, a fait. Donc lui, il a un talent caché, c'est vrai, il est un petit peu barré quand il fait des fois retourner, il monte, il fait des trucs parfois de waouh, un peu barré, il est au perché, et donc mis en page par Mercea, donc le guitariste qui lui travaille dans l'artwork, tout ça. Et donc voilà, donc ça, ça sortira en digital, tout ça, donc c'est un bel objet comme ça. Le but, c'est que ça soit quand même quelque chose que, pas le vulgaire cristal conventionnel, le but, c'est aussi d'avoir que les gens puissent acheter un truc qui soit joli, et je pense que c'est pas mal réussi, quoi. C'est vraiment sympa.
Album qui sortira le 15 janvier 2010 chez Nuclear Blast.
Un truc comme ça, ouais. Je crois que c'est le 15 ou c'est le 8, je sais plus, ça, la date a changé, mais c'est aux environs de ça.
Merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Et puis, bah, bonne continuation, hein, même si le plus dur a été fait ou presque. Reste plus qu'à être
pleine, quoi. Ouais, voilà. Oh, on a l'impression, on va se marrer, quoi. C'est plus de toute façon, c'est de te marrer.